au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Une empoisonneuse, plusieurs couples couronnés et un cinéaste de légende sautent aujourd'hui au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le cinéaste, bien entendu, c'est Charlie Chaplin. Nous allons le retrouver tout à l'heure sur le tournage des Temps modernes et du Dictateur. D'ailleurs, hier je vous parlais de ce documentaire étonnant qui avait été fait à la toute fin des années 70 par Pierre Tchernia et vous en avez retrouvé la trace, vous me disiez ça Anissa.
Oui, le documentaire de Pierre Tchernia où vous pouviez découvrir les coulisses des tournages de Charlie Chaplin, ce qu'on appelle aujourd'hui le making of, s'appelle Chaplin inconnu. Voilà. Il est disponible en DVD aujourd'hui. Et merci à Concombre Masqué, hein, c'est son nom sur Twitter qui nous a donné cette info avec le hashtag ACDH.
Alors, nous allons parler, vous le disiez, aussi de couples couronnés, Victoria et Albert, François-Joseph et Sissi, Nicolas et Alexandra. C'est Jean-François Solnon qui va venir nous en parler à l'occasion de l'apparition en format de poche d'un de ses ouvrages majeurs.
Quant à l'empoisonneuse, Franck?
Ah, ça, je ne vous dis pas qui c'est. Vous allez le découvrir dans un instant grâce à l'histoire que je vous propose, celle d'une femme traquée à travers l'Europe du grand siècle.
Et vous aurez compris que cette année, il y en a chaque jour pour tous les goûts de 14h à 15h.
Donnez-nous votre avis d'ailleurs sur cette nouvelle formule via Facebook, via Twitter et sur le site internet d'Europe 1. Je me prends d'un seul coup pour vous, Anissa. Vous
avez c'est vrai.
Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Sous le règne de Louis XIV, le quartier du Marais est un des plus récents et l'un des plus élégants de la capitale. Avant le lever du jour, ce 27 août 1672, une dame visiblement nerveuse, préoccupée, sort de chez elle en toute discrétion. Elle a le cœur battant, elle vérifie que personne ne l'observe et se jette dans un carrosse qui l'attend pas très loin dans la rue. Elle est seulement accompagnée de sa domestique la plus fidèle. Son idée, fuir Paris, fuir au plus vite pour un lieu où la justice du roi ne pourra pas la rattraper. Son nom ne vous dira rien, Marie-Madeleine Dreux d'Aubray, mais son titre en revanche ne vous est pas inconnu, elle est marquise de Brinvilliers. La marquise de Brinvilliers est âgée d'une quarantaine d'années. Il faut imaginer une dame assez petite avec des yeux d'un bleu charmant, le teint pâle, très pâle ce matin-là, la chevelure sombre et fournie. Marie-Madeleine dégage un charme inoffensif, presque enfantin. Difficile évidemment lorsqu'on la voit comme ça d'imaginer qu'elle puisse être mêlée à une sinistre histoire d'empoisonnement, en série. Et pourtant, quelques semaines avant ce départ précipité, des indices pour le moins compromettants ont été retrouvés chez son amant, tout juste décédé lui-même. Dans une même cassette, on a découvert d'étranges poisons ainsi que des documents évoquant son nom à plusieurs reprises, de quoi susciter bien des questions. D'autant plus que le père et les deux frères, enfin en tout cas deux des frères de la marquise de Brinvilliers, sont morts dans des circonstances très suspectes, pouvant laisser penser à des empoisonnements. Très vite avant que l'étau ne se resserre sur elle, Marie-Madeleine s'est décidée à quitter mari et enfant pour filer à l'anglaise. D'ailleurs, c'est l'Angleterre qu'elle a justement choisie comme terre d'exil. Le voyage en direction de Londres n'est pas facile, vous savez à l'époque aucun voyage ne l'est, mais disons qu'il se déroule sans encombre. La fugitive est sans doute aidée par ses relations, en tout cas elle trouve un point de chute discret pour elle et pour sa domestique. Son plan est simple, se faire oublier le temps qu'à Paris l'orage passe. Ce qu'ignore Marie-Madeleine, c'est qu'elle a été aperçue lors de son débarquement au port anglais de Douvres. Vous savez, il y a des mouches à l'époque, ces espèces d'espions qui renseignent la police sur tout ce qui se passe partout. Cette information, elle ne va pas mettre longtemps à traverser la Manche. Il faut vous dire que l'affaire de cette empoisonneuse en fuite fait grand bruit en France, jusque dans les hautes sphères du pouvoir. Dans l'entourage de Louis XIV, on entend faire un exemple. Autant dire qu'on n'abandonnera pas les recherches aussi facilement. Du reste, les services du roi de France n'hésitent pas à s'adresser à ceux du roi d'Angleterre afin qu'ils collaborent à l'arrestation puis à l'extradition de l'introuvable fugitive. Il faut être franc, le roi Charles II se fait un petit peu tirer l'oreille. La cour de Saint-James n'éprouve pas de franche sympathie pour celle de Saint-Germain-en-Laye et la collaboration va se révéler polie, certes, mais molle. Il n'empêche, Marie-Madeleine a des antennes. Elle sent bien que l'Angleterre n'est pas très sûre et au bout de quelques mois seulement, elle décide de retourner sur le continent. Oh, pas en France, évidemment. Non, non. Son refuge rêvé, ce serait volontiers ces provinces unies des Pays-Bas qui sont l'ennemi désigné de la France. La marquise devrait réagir en tout état de cause parce qu'à Paris, elle vient d'être condamnée par contumace, condamnée à mort. Pour la marquise de Brinvilliers, cette nouvelle traversée marque le début d'une cavale insensée, ponctuée par des contretemps, par des déceptions. Un temps à Cambrai, à l'époque tout près de la frontière française, Marie-Madeleine écrit à son mari pour qu'il accourt à sa rencontre. Ai-je besoin de vous dire qu'il va bien sûr ne pas la rejoindre. Hormis les quelques parents qui lui envoient de l'argent, la petite marquise doit se rendre à l'évidence qu'ils aient peur ou qu'ils la condamnent déjà eux-mêmes. Ses proches, à présent, lui tournent le dos. Elle ne pourra compter que sur elle-même. À présent, le conflit fait rage entre la France et les provinces unies, c'est ce qu'on appellera la guerre de Hollande, pour Louis XIV une véritable promenade de santé. Or, au gré des avancées de l'armée française, la marquise, telle une bête traquée, va devoir trouver sans cesse de nouvelles cachettes. Alors on va la voir passer par Valenciennes, par Anvers, elle est toujours par Mons et par Vaux, elle est toujours en carrosse, elle arrive enfin à Liège. Liège qui à l'époque est la capitale d'une principauté neutre dans le conflit, dans la guerre de Hollande. C'est là que Marie-Madeleine, un peu soulagée, pose enfin ses malles dans un couvent, un petit peu à l'écart de l'agitation liégeoise. Elle respire, je ne vous dis pas pour autant qu'elle est sereine. Est-ce qu'elle a vraiment peur? Est-ce qu'elle ressent un sentiment d'injustice? Ou plus probablement, est-ce qu'elle est tenaillée par une forme de mauvaise conscience? Toujours est-il que sa fébrilité est évidente. Et bien sûr, dans le couvent, on s'en rend compte et on en parle. Elle est étonnante, cette nouvelle. Ses nerfs sont mis à rude épreuve. Il est vrai que la monotonie de son quotidien n'arrange rien. La vie parisienne qu'elle a tellement aimée, cette vie tellement animée, tellement jouissive pour elle, on peut dire que cette vie, elle est loin maintenant. Ah, Paris. Est-ce que seulement elle pourra y retourner un jour, sans avoir à s'inquiéter d'une affaire qu'elle voudrait pouvoir oublier? Les mois passent, à Liège l'ennui s'installe, du moins jusqu'à ce jour de l'hiver 1676, ne comptez pas, ça fait 3 ans et demi que la cavale a commencé. Ce jour-là donc, un Français qui lui aussi est exilé dans la petite principauté liégeoise, un Français croise la marquise par hasard et il la reconnaît. L'homme se dit qu'il pourrait tirer pas mal d'une telle information. S'il contribue à la capture d'une fugitive à ce point recherchée, il peut espérer mettre un terme à ses propres ennuis. Parce que pour tout vous dire, ce voyageur, lui aussi, est en délicatesse avec la couronne de France. Alors il ne va pas hésiter tellement. Il transmet la nouvelle de sa découverte à l'un des principaux ministres de Louis XIV, monsieur de Louvois, qui, on l'imagine sans peine, est ravi d'un tel rebondissement. Très vite, Louvois dépêche à Liège un agent efficace, le sieur François Desgrés, charge à lui de rencontrer l'informateur. Pour la marquise, le piège est en train de se refermer, mais ça, bien entendu, pour le moment, elle l'ignore. Et l'informateur, après s'être assuré les bons offices des autorités liégeoises, se présente donc le 25 mars de cette année 1676 au couvent qui héberge la suspecte. Ils sont accompagnés du bourgmestre de Liège, ils entrent dans le bâtiment et d'un pas décidé, ils parcourent les longs couloirs. Les voici devant la porte de la marquise. petits regards satisfaits entre eux. Dans quelques instants, elle sera leur proie, en tout cas si tout se passe comme prévu.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Reviens dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez la cavale de la marquise de Brinvilliers. Alors, juste avant de découvrir la suite de cette histoire, la marquise de Brinvilliers est sur le point donc de se faire arrêter par des hommes envoyés par les services de Louvois. Mais oui. Je me pose une question, Franck. Pourquoi un ministre tel que Louvois a accordé une telle importance à cette fugitive?
Il avait tout intérêt. Alors d'abord, il y a plusieurs raisons. La fugitive en question, c'est une marquise. Mmh. Donc c'est ce qu'on appelle à l'époque une personne de qualité. Mmh. On l'accuse d'avoir assassiné son père, ses frères. Vous imaginez un peu le scandale mondain, si je puis dire. Et puis, et c'est très important, il y a cette espèce de focalisation de l'époque sur la question des poisons. Il faut savoir que le poison est un véritable fléau social à l'époque et que le roi Louis XIV, tout particulièrement, est très sensible à cette question. On est à l'origine même, au départ de ce qu'on va appeler l'affaire des poisons, vous savez, qui secoura littéralement le règne de Louis XIV. Donc c'est d'une grande importance. Importance politique également, parce que on sait déjà qu'une personnalité très puissante se trouve mouillée dans cette affaire. Le bonhomme en question, c'est Pénautier, qui était receveur général du clergé et qui est un proche de Colbert. Or, Colbert, dans le gouvernement, a un ennemi juré qui est Louvois. Et vous comprenez que Louvois ait tout intérêt à récupérer la marquise pour en apprendre davantage. Il y a bien entendu une machination politique derrière tout ça. C'est pour ça que Louvois envoie François Desgrais, qui s'est donc présenté. On est à Liège, il s'est présenté avec le maire de la ville dans ce couvent qui héberge la marquise de Brinvilliers. Alors, on ne s'embarrasse pas de manières inutiles. La porte est brutalement ouverte. Le petit groupe d'hommes fait irruption. Marie-Madeleine est surprise en plein repas. On imagine son souffle court, hein, son cœur qui se serre. Elle comprend à l'instant qui sont ces hommes et ce qu'ils lui veulent. On veut la ramener en France, bien entendu. Et là, on va la traiter en meurtrière, on va l'humilier, on va la torturer. Et ça, c'est beaucoup plus qu'elle ne peut en tolérer. Elle ne perd pas une seconde, Marie-Madeleine. Elle s'empare d'un verre sur la table et elle le mord à pleines dents. Vous savez, les verres à cette époque sont fins, fragiles. Des éclats se fichent dans la bouche déjà pleine de sang. Marie-Madeleine prend sur elle d'avaler des débris aigus, tranchants, en espérant que la mort vienne au plus vite. Et là, Desgrais va réagir. Il lui saute littéralement dessus. Il n'a pas du tout l'intention de la laisser faire, hein, bien entendu. Il lui saisit les mâchoires à pleines mains et il la force, il la contraint à recracher les débris de verre jusqu'au dernier. C'est un affreux spectacle, il y a beaucoup de sang, mais enfin elle est en vie. La Brinvilliers, comme tout le monde l'appelle déjà à Paris, on ne dit plus la marquise, on dit la Brinvilliers, vous savez. La Brinvilliers sera obligée de vivre, obligée de voir les deux hommes fouiller méthodiquement son logement, jusqu'à mettre la main sur un document qu'elle redoutait de voir découvert. Ce document, il n'est pas lu pour le moment, les deux hommes se contentent de le sceller. Mais évidemment, elle le sait. Elle le connaît, ce document, et sauf à croire au miracle, elle sait que son arrêt de mort est signé. Emprisonnée donc à Liège dans un premier temps et puis transférée après quelques jours à Maastricht, qui à l'époque est une possession française. Et c'est là que de nouveau, elle tente de mettre fin à ses jours, cette fois en ingurgitant des épingles à cheveux. Vous imaginez les nouvelles douleurs aiguës, bref, nouvel échec. Pourtant, un espoir fou s'est éveillé en Marie-Madeleine. Elle va organiser son évasion. Alors elle monte tout un plan extrêmement complexe, avec un plan, si je puis dire, à multiples détentes, tellement complexe, tellement difficile à mettre en œuvre que ce plan échoue. La chance n'est plus de son côté. D'ailleurs, ce qu'elle craignait arrive bientôt. Le document trouvé chez elle est transmis à un enquêteur qui certainement n'en croit pas ses yeux, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une confession complète. Quand je dis confession, confession au sens religieux du terme, une confession écrite semble-t-il dans un moment de désespoir. Voilà l'énumération des péchés, hein. Je lis le document en question. « Je m'accuse d'avoir commis des incestes 3 fois la semaine, peut-être 100 fois. J'ai commis plusieurs adultères avec un homme marié, 14 ans durant. J'ai 2 enfants parmi les miens qui sont de ce fait. Je m'accuse d'avoir empoisonné mon père, moi-même. Un laquais lui donnait du poison. J'ai fait empoisonner mes deux frères. J'ai eu volonté d'empoisonner ma sœur, me parlant de ma manière de vie qui était horrible. J'ai pris des drogues pour avorter. Je m'accuse d'avoir donné 5 ou 6 fois du poison à mon mari, le regret m'ayant pris, je l'ai fait bien traiter et il en est guéri. Vous imaginez, c'était invraisemblable. On a dans toute l'histoire de la justice très peu d'exemples d'une telle litanie de crimes, d'une telle confession. Alors en principe, dans la religion catholique, le secret de la confession est sacré et celle-ci ne devrait pas être lue, elle ne saurait pas être utilisée par la justice. En principe, mais en fait, la preuve est belle, très belle, trop belle pour rester cachée. Qu'importe si Marie-Madeleine affirme l'avoir rédigée lors d'un moment de folie. Elle est conduite sous bonne garde, de ville en ville, en direction de Paris, dont elle s'approche maintenant. Dangereusement, elle se rapproche de la somme des grandes épreuves qui l'attendent. Une nouvelle tentative de suicide ne va rien y changer. Le 25 avril, la Brinvilliers est enfermée à la Conciergerie sur l'île de la Cité, dans une grande cellule sombre, mal isolée. Les courants d'air se mettent à la harceler au moins autant que tous les démons qui l'assaillent. Espoir fou, l'idée d'une évasion, la perspective d'un improbable coup de théâtre viennent de temps en temps lui redonner courage. Elle se dit que quelqu'un va quand même bien la sortir de ce mauvais pas. Un protecteur va surgir. Et quand son geôlier lui propose de transmettre secrètement des lettres qu'elle voudrait adresser, évidemment elle saisit l'occasion, elle ne se méfie pas. C'est en entendant le nouveau tour que prennent quelques jours plus tard les questions de ses juges qu'elle comprend dans quel piège elle vient de tomber. Malgré son épuisement physique et psychique, et elle est quand même complètement à bout de nerfs, Marie-Madeleine tente de se défendre jusqu'au bout, elle cherche à déjouer les pièges de ses accusateurs. Elle est très fière, hein. Elle va d'ailleurs surprendre le public. « Ils ne l'auront pas », se dit-elle. En fait, derrière ses bravades, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ses traits ont beaucoup enlaidi pendant sa cavale. À Paris, le public se passionne évidemment pour son cas et aux yeux de beaucoup, elle est un monstre criminel dont il faut nettoyer la terre. Des rumeurs circulent sur son compte. On prétend qu'elle aurait testé des poisons sur un certain nombre de malades sous couvert de leur venir en aide. En fait, on voit tout simplement en elle une sorte d'incarnation du diable. Les commérages vont bon train et même les médisances. Ce qui paraît certain, c'est que l'exécution approche. Le 16 juillet, le verdict tombe enfin. Ce sera la décapitation publique en place de grève. Mais pour Marie-Madeleine, les épreuves ne sont pas terminées pour autant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Europe 1,
au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez la cavale puis l'arrestation de la marquise de Brinvilliers. Ça y est, elle vient d'être condamnée. Ça sera donc la décapitation publique pour elle.
Alors, on ne sait pas pourquoi elle se livre à de nouvelles confessions. En fait, il y a un prêtre qui est chargé de l'accompagner dans ses derniers instants, bien sûr. Et peut-être parce qu'elle espère, comme cela, éviter la torture. Elle parle, oui, dit-elle, elle a tué son père. Oui, elle a fait éliminer ses frères. Oui, elle a utilisé une mixture qui mêlait arsenic, bave de crapaud et autres ingrédients sordides dont je vous fais grâce. Mais ces explications, une fois données, elles n'échappent pas à la torture pour autant. Vous savez, c'est la torture à l'eau à l'époque. Hein. C'est absolument horrible. Et puis un petit répit et on vient la chercher dans son cachot pour la mener dans le tombereau, hein, c'est-à-dire vraiment dans la charrette des ordures. On l'emmène jusqu'à la place de grève. Elle est conspuée par cette foule qui crie mort à la Brinvilliers. Certaines fenêtres sur la place de grève ont été louées à prix d'or. C'est là que la marquise, en larmes, a rendez-vous avec la plus horrible des fins, bien entendu. Elle ne manque pas d'une certaine dignité. On note notamment, plusieurs chroniqueurs notent la profondeur de ses prières. Elle est toujours accompagnée par cet abbé, hein, qui est avec elle à ses côtés. Le bourreau, déjà, elle est sur l'échafaud maintenant. Le bourreau lui coupe les cheveux. Il se met en position, l'épée de justice à la main. Et jusqu'au bout, on peut dire que la condamnée s'adresse à Dieu, implore sa miséricorde. Il est vrai qu'elle n'a plus rien à espérer des hommes. Ainsi disparaît la marquise de Brinvilliers, emportée comme un fétu dans les décombres du grand siècle.
place maintenant Franck Ferrand à 14h25 à la deuxième partie de l'émission consacrée aux couples royaux dans l'histoire, car comme on dit, derrière chaque grand homme se cache toujours une femme, et on en parle avec votre invité Jean-François Saulnon, auteur des couples royaux dans l'histoire, réédité chez Tempus, oui, aux éditions Perrin.
Je dirais après vous que derrière chaque grand livre se cache un grand auteur,
aussi,
bien entendu. Je suis ravi de recevoir Jean-François Saulnon aujourd'hui. On était dans votre grand siècle, Jean-François, et nous allons parler de toute autre chose ensemble aujourd'hui.
Vous avez fait froid dans le dos, c'était voulu.
Il y a eu des ombres dans ce siècle, par ailleurs tellement brillant, tellement coruscant.
Surtout que l'histoire de la marquise de Brinvilliers, c'est la préface à l'affaire des poisons, dans laquelle vont être mêlés de grands personnages de la cour et de la ville. Et c'est tout à fait significatif des mentalités du temps. Dans ce pays de Descartes, on croit encore aux maléfices, aux poisons, aux sorcières.
La sorcellerie est très présente. Il faut dire qu'elle est encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, dans certaines de nos provinces, mais infiniment moins qu'elle a pu l'être dans ce siècle qu'on croyait tellement rationnel.
C'est comme le phénix, ça renaît de temps en temps.
C'est vrai, ça, c'est très, très intéressant comme phénomène. Alors, comme vous l'avez entendu, nous avons envoyé les pompes et les circonstances pour accueillir la reine Victoria. Vous avez en effet, il y a quelques années maintenant, consacré un livre passionnant aux couples royaux dans l'histoire. Alors vous parlez dans cet ouvrage d'Isabelle la catholique et de Ferdinand, vous parlez de Charles VI et de l'étrange Isabeau de Bavière, qui a été un couple auquel on croyait beaucoup et dont on sait malheureusement ce qu'il est devenu, entre un roi fou et une reine que vous réhabilitez en partie du reste, en partie seulement.
De comprendre
en tout cas. Bon, ce ne sont pas ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Je me suis permis, parmi cet extraordinaire cortège que vous nous proposez, de sélectionner les grands souverains du 19e siècle. On va donc parler ensemble de Victoria et d'Albert, de François-Joseph et Sissi, de Nicolas et Alexandra. Bref, tout un beau programme.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez de découvrir ou redécouvrir en détail et de façon plus personnelle les couples royaux dans l'histoire, ceux du 19e siècle, avec votre invité Jean-François Saulnon, auteur de ce livre, Les couples royaux dans l'histoire, paru chez Perrin.
Oui, qui est réédité donc dans la collection Tempus, qui est la collection de poche des éditions Perrin. Et c'est bien comme ça, ça met ce livre à la portée et à la disposition de tout le monde. Je suis ravi qu'on puisse en parler, Jean-François Saulnon, car à travers ces couples, c'est aussi une certaine place de la femme dans l'histoire que vous avez voulu mettre en avant, en vérité.
Oui, d'habitude, lorsqu'on parle de souveraine, de reine, de princesse, on explique et on évoque celles qui ont exercé d'une manière solitaire le pouvoir. C'est Élisabeth d'Angleterre, Élisabeth Ière d'Angleterre, c'est Christine de Suède, que sais-je encore. Ou alors celles qui ont exercé le pouvoir par délégation
dans
en tant
Londres.
Que régente.
Voilà, oui.
Depuis Blanche de Castille en France jusqu'à Anne d'Autriche, en passant par Catherine et Marie de Médicis.
Bien sûr, oui.
Là, le propos était différent. Il s'agissait de voir des couples légitimes, confrontés.
Oui, ce ne sont pas des maîtresses royales.
Non, ce ne sont pas les favorites.
C'est des couples
légitimes. Donc, c'est une histoire très morale.
Oui, c'est tout à mettre entre toutes les mains, cette histoire.
Et de voir, dans certains cas, quelle était la place de la femme. D'abord, comment les couples se sont constitués. Et ensuite, quelle était la place de la femme? A-t-elle décidé elle-même de s'intéresser à la politique? Et a-t-elle été invitée par son mari ou par les circonstances particulières? C'était ça mon propos.
Alors, vous évoquez, je le disais, toutes sortes de couples de l'histoire, notamment Justinien et Théodora. Ça, c'est une des destinées.
Il y a une fâcheuse réputation.
Incroyable, comme histoire. Ou alors, beaucoup plus présentable, ça dépend. Il ne faut pas creuser trop profondément. Ferdinand et Marie-Caroline de Naples. Bref, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces couples plus récents, si je puis dire, et notamment, peut-être le plus emblématique, le plus célèbre de tous, celui que forme la reine d'Angleterre, car c'est elle qui est reine d'Angleterre, Victoria, avec le prince consort Albert de Saxe-Cobourg. Mariage d'amour, d'abord.
Avec celui qui n'a été prince consort que tardivement dans sa vie. Donc c'est un peu le phénomène inversé aux autres couples royaux, à François-Joseph et Sissi, ou à Nicolas II, Alexandra, Féodorovna. Oui, là, c'est un mariage d'amour. Et c'est assez curieux parce que ça correspond pas à l'image qu'on se fait de la reine Victoria. La reine Victoria est finalement une jeune fille qui aime extraordinairement s'amuser, qui aime les balles, qui aime les réceptions.
On voit la grand-mère en fichu noir.
Oui, on la voit trop souvent comme ça, la grand-mère de l'Europe, un peu épaissie, même assez largement épaissie et plutôt sévère. Tandis qu'elle a été une jeune fille et une jeune femme très amoureuse. Albert correspondait au canon de la beauté masculine de l'époque. Elle a été immédiatement ou presque immédiatement amoureuse d'Albert.
Totalement conquise.
C'est étonnant parce que entendre une femme au 19e siècle dire après son mariage, comprenez, après sa nuit de noces, c'est une sorte d'avant-goût du paradis dans la bouche de Victoria, c'est quand même assez étonnant.
Dans son journal intime, en
oui,
tout cas.
Oui, bien sûr. Alors, elle est très amoureuse de son mari, mais il ne s'agit pas qu'il se mêle de politique.
Ah, ça, c'est assez étonnant, hein.
Et c'est immédiat. Lorsque Albert arrive donc à Londres, il n'est pas aimé, Albert. Il n'est pas aimé par la population. Il est allemand. On lui prête toutes sortes de défauts. On s'interroge même savoir s'il n'est pas finalement catholique, ce qui est quand même quelque chose d'épouvantable pour les anglicans. Peut-être est-il un espion. Bref, on n'aime pas cet homme. Il aura un mal fou d'ailleurs pour reconquérir l'opinion. Et lorsqu'il arrive donc à la cour de Saint James ou à Buckingham, eh bien...
Oui, puisque ce sont eux qui les prennent. Premiers vont habiter à Buckingham.
Bien sûr, et Victoria n'entend pas du tout lui laisser la moindre occupation qui soit une occupation politique. Ce que Victoria a oublié, c'est qu'elle était une femme.
Et une femme amoureuse.
Une femme amoureuse, une femme qui doit donner des héritiers à la couronne d'Angleterre. Et par conséquent, très vite, elle est enceinte. Et quand elle est enceinte, eh bien, elle est obligée de prendre un peu de distance par rapport aux affaires politiques. Et là, Albert... À ses côtés, il ne demande que ça d'ailleurs, peut commencer à, sinon jouer un rôle, en tout cas à s'intéresser à la vie publique.
Et à se faire admettre par un certain nombre d'administrations, de hauts personnages.
Et même par le Premier ministre de l'époque.
Oui,
les premiers ministres, que ce soit Melbourne ou Sir Robert Peel, voyaient Albert d'un mauvais œil. Mais quand ils se sont rendus compte que c'était un homme modéré, un homme qui était curieux, un homme qui travaillait, parce qu'il a passé son temps à travailler, ils lui ont fait confiance et c'est eux-mêmes qui se sont fait les avocats d'Albert auprès de Victoria.
Oui. Le prince Albert mourra relativement jeune. Ça va être un véritable cataclysme dans la vie de sa femme. La reine Victoria a littéralement disparu de la scène pendant plusieurs années
pendant
à la suite.
Pendant cinq ans, elle s'est retirée soit à Balmoral, soit à Osborne, les deux résidences royales qui avaient d'ailleurs été achetées par Albert de Saxe-Cobourg. Et pendant cinq ans, elle disparaît. Alors on ne sait pas où est la reine. Il faut attendre un temps fou pour avoir une signature au bas d'un document. Et puis au bout de cinq ans, elle décide de faire son retour dans la vie publique. Et là, c'est comme cela qu'on la connaît d'ailleurs. C'est les photographies qui nous montrent cette femme entourée de ses enfants, de ses petits-enfants.
Mais maintenant, en grand deuil, qu'elle portera jusqu'à la fin de sa vie.
Elle a été véritablement marquée par la mort de son cher Albert, comme elle disait. Il est vrai qu'Albert a passé les dernières années de sa vie très malade. Et il a été confronté à quantité de problèmes politiques évidemment, comme j'allais dire tout un chacun, mais également de problèmes familiaux, puisqu'il était très inquiet de l'attitude de son fils Édouard, le futur Édouard VII, dont on sait qu'il va mener...
Il sera un excellent roi, mais enfin ça, on ne peut pas le deviner.
Il menait une grande vie en tant qu'héritier de la couronne, et ça déplaisait beaucoup Albert, et on prétend même, enfin les mauvaises langues, prétendent que la veille ou l'avant-veille de sa mort, il avait écrit une lettre de recommandation à Édouard, où il le tensait vraiment pour sa vie publique et sa vie privée dévergondée, et que ça aurait été une des raisons, si vous voulez, des accidents cérébraux ou cardiaques d'Albert.
Il avait piqué une colère de trop, d'une certaine manière. On voit dans un film des années 50 ou 60, ce qui s'appelle Les jeunes années d'une reine, on voit les amours de Victoria et d'Albert. Fait, c'est Romy Schneider qui, par ailleurs, évidemment, est resté dans les esprits l'incarnation d'Elisabeth d'Autriche, de Sissi.
Il faut croire que les réalisateurs aimaient bien la voir dans des rôles de souveraine, ce qu'elle faisait, mais à son corps défendant.
Ah oui, parce qu'elle n'aimait pas ça.
Elle avait d'autres talents que cela.
Évidemment. François-Joseph et Sissi, alors là, on est tout à fait à l'inverse, dans un couple très classique au pouvoir, d'une certaine manière.
Alors, un couple qui s'aime, là encore. Oui. Il faut donc penser que dans les familles princières, il y a aussi des mariages d'amour.
Il peut y avoir des mariages d'amour, la preuve.
François-Joseph est infiniment plus amoureux de Sissi que l'inverse. Et si l'image que l'on a d'elle, c'est une femme très soucieuse de son apparence physique, c'est quelqu'un qui ne cesse de voyager, d'errer à travers la Méditerranée, en Normandie ou ailleurs, qui fait construire des villas, dès qu'elles sont achevées, elle ne les habite plus. Bref, on a l'idée quand même d'une femme extraordinairement superficielle,
instable,
frivole, instable, neurasthénique. Oui, mais il y a dans son existence un moment où elle s'est mêlée de politique. Et ce moment-là, elle a imposé ses vues à son mari. Elle s'est faite l'avocate de la cause hongroise. Et c'est aussi grâce à elle, quand je dis aussi, ça veut dire qu'elle n'est pas la seule responsable, mais c'est aussi grâce à elle qu'est née ce qu'on appelle depuis 1867 la monarchie austro-hongroise. Mmh. C'est-à-dire le fameux compromis austro-hongrois qui donne...
Elle a laissé parler son cœur, là, peut-être, plus que sa raison politique, non ?
Alors, c'est amusant parce que le premier voyage officiel du jeune couple était pour la Bohême. Et on lui a vivement recommandé d'apprendre le tchèque, qui n'est pas, comme vous le savez, une langue facile. Oui, mais qui lui avait recommandé de le faire ? Sa belle-mère.
Alors là, c'était... L'archiduchesse Sophie.
L'archiduchesse Sophie, c'était donc pour Sissi... une sorte de fin de non-recevoir. Donc elle s'est mise à apprendre au contraire le hongrois. Elle a eu une dame de compagnie qui était d'origine hongroise, qui lui a fait connaître
donc
les grands hommes politiques.
Proche.
Elle était très proche d'elle. Elle lui a fait connaître les hommes politiques du temps, en particulier Déac, en particulier Andrassy, le beau comte Andrassy. Et il n'est pas nécessaire d'imaginer une idylle entre Sissi et le comte Andrassy pour la voir défendre la cause hongroise. Elle a pris fait et cause pour les Hongrois, le fait de parler la langue. Ça, c'était extraordinaire, parce que, encore une fois, c'est encore pire que le tchèque. C'est une langue qui n'est pas indo-européenne, le hongrois. Et elle l'a appris, elle connaît parfaitement la syntaxe, la grammaire, elle est capable d'improviser dans cette langue, elle connaît l'histoire de la Hongrie. Vous imaginez le succès qu'elle pouvait avoir à Budapest.
Mais même un triomphe, on peut le dire. Alors, j'aurais aimé, puisque nous parlons de couple couronné amoureux, qu'on évoque le plus amoureux de tous, c'est-à-dire celui que formait sur le trône de Russie Nicolas II et l'impératrice Alexandra. On n'aura pas le temps de le faire là aujourd'hui, Jean-François Saulnon. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage pour le faire. L'ouvrage s'appelle « Les couples royaux dans l'histoire ». C'est réédité donc dans la collection de Poche Tempus. C'est ce qu'il y a de plus étonnant peut-être dans le destin de Nicolas et d'Alexandra, c'est qu'il rappelle à quelques décennies d'écart, pas mal de décennies d'écart, il rappelle celui de Louis XVI et de Marie-Antoinette, dont vous parlez aussi d'ailleurs.
D'ailleurs, on accusait Marie-Antoinette d'être l'autrichienne. En Russie, on nommait Alexandra l'allemande. Mmh. Et on l'accusait de cette germanophilie qui aurait flirté, parce que ce n'est pas vrai, mais qui aurait flirté avec la trahison pendant la guerre de 14.
Merci beaucoup Jean-François Saulnon. On vous retrouvera très bientôt dans l'émission pour parler de toute autre chose. Je suis ravi que vous ayez pu venir nous parler de ces couples royaux dans l'histoire. Dans l'histoire.
Le quatrième épisode de la semaine. Vous avez reconnu cet indicatif, la musique du film Les Feux de la Rampe, signé Charlie Chaplin, puisque l'on vous parle de ce grand cinéaste tous les jours de la semaine jusqu'à 15h, Franck.
Alors, vous savez, nous étions restés hier à ce film merveilleux, Les Lumières de la Ville.
Les Lumières de la Ville, City Lights.
Qui a demandé tant de travail à Charlie Chaplin et qui l'a vu d'ailleurs hésiter beaucoup, parce que c'est une époque où il se pose de grandes questions par rapport à ce cinéma parlant qui vient d'envahir littéralement Hollywood et auquel lui n'est pas prêt du tout. Il est tellement peu prêt qu'il va continuer à faire un certain nombre de grands films muets. Quand je dis muets, ça ne les empêche pas d'être sonorisés, ces films, et puis d'avoir ces musiques extraordinaires que nous entendons.
Mais pas de dialogue.
Pas de dialogue ou quasiment pas. Ça va venir petit à petit jusqu'à ce que finalement il soit obligé de céder. Après les Lumières de la Ville, Charlie Chaplin entreprend autour du monde un gigantesque voyage. On le voit à Londres, à Berlin, à Vienne, à Paris, à Bruxelles, à Nice, à Biarritz, Saint-Maurice, Rome, Ceylan, Singapour. Entre parenthèses, Saint-Maurice, ça lui donnera des idées. Il y reviendra plus tard. tard, on verra ça demain. Rome, Ceylan, Singapour, Java, Bali, Tokyo, c'est complètement extraordinaire. Et alors, à chaque fois qu'il arrive quelque part, il est reçu par les plus grandes sommités locales, George Bernard Shaw ou le Premier ministre Ramsay MacDonald à Londres. À Berlin, c'est Marlène Dietrich et il a un entretien privé avec Albert Einstein, s'il vous plaît. Il est reçu par Aristide Briand et fait chevalier de la Légion d'honneur par Philippe Berthelot à Paris. Et même lorsqu'il est beaucoup plus à titre privé en résidence à Nice tranquillement, on lui signale que le prince de Galles, Winston Churchill, le roi Albert de Belgique veulent le rencontrer. Il aura même un entretien qui a laissé des souvenirs, ne serait-ce que par des photos étonnantes, avec le Mahatma Gandhi.
Au cœur de l'histoire.
Sur Europe 1.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je noterai ce que ferai, je noterai si t'avorerai, je la coule à t'il à toi. La spinache en la bouchon, cigarette pote bello, si raquiche par galetto, je la coule à t'il à toi.
Il y a évidemment quelque chose de magique hein, dans ces grands moments. On en a égrené quand même un certain nombre tout au cours de cette semaine.
Ouais.
Quel génie, ce personnage qui a le sens intime d'une gestuelle qui s'impose à tous les publics, qui sait transmettre les états d'âme comme personne, qui est capable de faire avancer une histoire quasiment sur quelques petits détails, des idées, des trouvailles de mise en scène qui bien souvent n'ont même pas été écrites, sans le recours du dialogue, même si là on l'entend chanter, vous voyez, même si le film, encore une fois, les temps modernes, évidemment, Modern Times, est sonorisé, mais ce n'est pas un film dialogué. Et je pense qu'on peut dire que si ce film n'avait pas vu le jour, que si Charlie Chaplin n'avait pas donné naissance à ce film Les Temps Modernes, il ne serait pas aujourd'hui considéré comme un des grands personnages du XXe siècle. S'il est aujourd'hui encore en photo sur les couvertures des manuels scolaires, Charlie Chaplin, c'est parce qu'il a été un jour ce petit personnage de Charlot, dernière apparition réelle de Charlot d'ailleurs dans un film, hein, 1936, c'est parce qu'il a été ce Charlot pris dans les rouages extraordinaires de cette machine qui le broie, qui l'instrumentalise, qui l'essore littéralement. Ce qu'il a voulu montrer là, c'est l'aliénation de l'être humain par un monde moderne.
Qu'il envoie à l'hôpital d'ailleurs dans le film.
Ah oui, qu'il l'envoie, on pourrait presque dire, hors du monde des vivants et de la société. Il incarne là quelque chose, il transmet un message et c'est d'une importance considérable. Parce que ça veut dire que Charlie Chaplin, qui c'est vrai, à travers les très nombreux courts-métrages qui avaient émaillé les débuts de sa carrière, avait déjà essayé de transmettre un certain nombre de messages dont je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils étaient politiques, mais qu'ils avaient néanmoins une forte dimension et répercussion sociale, eh bien Charlie Chaplin, cette fois, prend position littéralement. Et inutile de vous dire qu'il ne se fait pas que des amis. On se demande beaucoup, dans les milieux qui pensent, aux États-Unis et ailleurs, quelle est la signification de ce message, alors que d'un autre côté, la Russie soviétique, qui est, ne l'oublions pas à l'époque, la Russie stalinienne, dénonce chaque jour les méfaits d'un capitalisme considéré comme la perdition de l'histoire. Il y a donc sans doute chez Charlie Chaplin là une position très délicate et la critique va réserver à son film un accueil pour le moins froid. Alors on sait que Charlie Chaplin n'avait pas grande considération pour la critique. Ce qui l'intéressait, c'était l'accueil du public. Manque de chance, là encore, le public n'est pas très emballé par ce film, qui est peut-être en avance sur son temps, qui est décalé aussi par rapport à ce qu'attend le public. On est dans les débuts, dans l'efflorescence de ce cinéma parlant. On veut de grandes fresques, on veut de grandes explications psychologiques. psychologique entre les personnages. On veut des scènes d'amour plus vraies que nature. Et là, on est quasiment dans une sorte de film opéra hyper visuel, quasiment abstrait pour certaines de ses parties. Ça ne passe pas vraiment. Et on raconte qu'à la sortie d'une salle de projection à Los Angeles, Charlie Chaplin a vu sortir des enfants qui donc parlaient du film et qui se demandaient pourquoi les personnages ne s'exprimaient que par gestes. Est-ce qu'ils sont sourds-muets, demandait un des enfants. Et on dit que ça a beaucoup choqué et marqué Chaplin, qui, quelques mois plus tôt encore dans Variety, s'exprimait dans les termes suivants. « Jamais encore le progrès ne fut ainsi dirigé à contresens, dit-il. Dans l'histoire de la culture, on n'avait encore jamais observé un phénomène contre lui-même. Ce qui se passe depuis 6 ans à ce point de vue dans le cinéma n'est rien d'autre qu'un frénétique harakiri. L'art cinématographique s'est trahi lui-même. »
Au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous avez décidé de vous arrêter sur deux grands films qui ont marqué la carrière de Charlie Chaplin, Les Temps modernes et Le Dictateur.
Oui, alors ce sont évidemment des films qui n'ont pas été bien accueillis ni par la critique, disons-le, ni par le public à cette époque, même si aujourd'hui, évidemment, ce sont considérés comme des films absolument extraordinaires. Et l'on commence à dire, et ça, vous allez voir les répercussions que ça aura très bientôt, on en parlera demain, bien entendu, on commence à dire... Charlie Chaplin est un communiste. Et en fait, nous avons à la tête d'une des plus grosses sociétés de production d'Hollywood, nous avons un réalisateur qui est considéré comme l'un des plus grands réalisateurs du monde, qui est avant tout un communiste. On dit que ça faisait beaucoup rire Charlie Chaplin quand on le taxait de communisme. C'est vrai qu'il était intéressé par le marxisme, c'est vrai qu'il regardait toujours ce qui se passait en Union soviétique, mais de là à le considérer comme un communiste, vous savez, j'ai toujours à l'esprit ce livre merveilleux de José Luis de Villalonga. Vous savez, José Luis de Villalonga, grand mondain, grand chroniqueur, personnage extraordinaire, comédien par ailleurs, qui en 1972 a sorti un livre qui s'appelle Golgotha. Il est allé rencontrer toutes les légendes vivantes de son temps. Et il s'est rendu en Suisse, à Corsier-sur-Vevey, où vivait évidemment Chaplin, nous en parlerons demain. Et il lui a dit, mais alors êtes-vous un communiste? Et ça a beaucoup fait rire Chaplin, qui lui dit, oui, je sais qu'il y a des gens en Amérique qui pensent encore que je suis communiste. Regardez autour de vous. On est dans un manoir absolument somptueux, hein, bien entendu. Lorsque la journée est claire, de mon manoir, on peut voir le toit d'une succursale de l'Union des banques suisses. C'est beau, non ? Dit Chaplin. Croyez-en mon expérience de vieux capitaliste, l'argent et la beauté font toujours bon ménage. C'est Chaplin qui parle. Hein. Oui, regardez autour de vous, si j'étais un communiste, avouez que je serais quand même un drôle de coco, lui dit-il. Bon. Et si Charlie Chaplin n'est évidemment pas communiste, en revanche, il a le sens... sociale, la fibre sociale très développée, ce qu'on a pu voir dans Les Temps modernes comme dans un certain nombre d'autres grands longs métrages. Mais ce qu'on va voir peut-être de façon encore plus extraordinaire dans ce film dont vous allez entendre tout de suite la musique, c'est The Great Dictator, en français Le Dictateur. Dans ce film, Charlie Chaplin s'attaque personnellement et directement à Hitler quand même. C'est assez extraordinaire ce qui se passe à une époque, ne l'oubliez pas, où le premier partenaire commercial des États-Unis et de toutes les grandes sociétés américaines en Europe, c'est l'Allemagne, bien entendu. L'Allemagne nazie, bien entendu, ça pose des problèmes énormes. On lui demande, on fait pression sur lui, on le supplie de renoncer au tournage de ce film. Il n'en fait rien, il ira jusqu'au bout avec celle qui est devenue son épouse, même si c'est dans un premier temps, ça a été un mariage très discret, assez exotique d'ailleurs. C'est évidemment Paulette Goddard qui a été d'abord sa partenaire dans Les Temps modernes et qui est évidemment celle qui va porter avec lui le film Le Dictateur. Ils se sépareront peu de temps après d'ailleurs le film Le Dictateur. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ne se marient que quelques temps avant de se séparer.
Oui, c'était un mariage éclair.
C'est bizarre. Mais ils ont vécu en revanche longtemps, 8 ans ensemble. Et puis après cela, il y a cette anecdote assez extraordinaire. C'est Orson Welles, vous savez, Orson Welles, grand personnage aussi d'Hollywood, à qui un dramaturge célèbre a demandé de recevoir sa fille chez lui et de la promener un petit peu dans Hollywood. Et alors Orson Welles lui fait les lignes de la main, n'est-ce pas ? Et il lui dit, oh, mais elle est très jeune, cette petite jeune jeune fille et lui dit « Oh, je pense que vous vous marierez avant peu et je peux même vous dévoiler le nom de votre futur mari. Il s'appelle Charlie Chaplin, dit-il. » La jeune fille rougit, elle éclate de rire. Vous aurez compris qu'elle s'appelle Una O'Neill. Elle est la fille du grand dramaturge Eugene O'Neill. Elle va effectivement devenir la quatrième et dernière, j'allais dire, et véritable épouse de Charlie Chaplin. Et alors elle aura la sagesse de ne pas tourner avec lui, de se mettre en marge du cinéma, de lui donner pas mal d'enfants, nous y viendrons demain, et de se consacrer entièrement, non seulement à la carrière, mais je dirais à la vie de son mari. C'est peut-être cela, finalement, que Chaplin attendait depuis si longtemps.